Chapitre 13. On apprend en vieillissant. Avant qu'on se fût réunis pour déjeuner, après les arrangements faits pour le voyage à Southampton, M. Dubster fit demander une audience à Sir Hugh. Celui-ci le reçut et le pria de lui dire ce qu'il voulait. « Monsieur, est-ce que vous n'avez pas lu la lettre du jeune gentilhomme ? » s'écria-t-il avec surprise, car il a dit que, pour épargner le temps, il avait mis les choses par écrit. Sir Hugh répondit qu'il n'en avait pas ouï parler. « Eh bien, si vous le trouvez bon, monsieur, nous irons demander à cette vieille dame ce qu'elle en a fait. Elle aurait tout aussi bien fait de la lire, puisque le jeune gentilhomme avait pris la peine de l'écrire. Mais, à ce que je vois, elle n'est pas du meilleur caractère possible. » Revenant donc à Miss Margland, après avoir salué trois fois la compagnie, « Je vous demande pardon, madame, lui dit-il, mais quelle est la raison, je vous prie, pour laquelle vous retenez la lettre du jeune gentilhomme pour vous, pendant qu'elle était écrite pour être lue à Sir Hugh, afin qu'il pût y voir le motif de mon voyage ?»« C'est que je ne me mêle point, répondit-elle avec hauteur, de pareilles impertinences. » Et cependant, dès qu'elle avait été seule, elle avait rompu le cachet et lu cette lettre, qui recommandait chaudement M. Dubster à ses bontés, en lui promettant de grands avantages si Camilla pouvait être disposée par ses soins en sa faveur. Elle avait donc brûlé cette lettre, déterminée à nier qu'elle en eût fait la lecture. M. Dubster, ayant inutilement insisté, dit enfin « Me voilà donc réduit à parler moi-même. » Alors il prit Sir Hugh à part et lui demanda Camilla Tyrold en mariage. Sir Hugh, qui ne vit rien de ridicule dans cette demande et que la bonté de son cœur porta même à s'intéresser à ce malheureux prétendant, lui dit sans détour que sa nièce était sur le point d'épouser un de ses voisins. « Je sais cela, » reprit M. Dubster en remuant la tête avec finesse. « Le jeune homme m'a parlé du baronnet, mais il m'a dit que la demoiselle ne l'épousait qu'à regret et parce que vous ne cessiez de la tourmenter. » « Que Dieu me pardonne !» s'écria Sir Hugh en élevant les mains, « si je ne crois pas que tous ces jeunes garçons ont juré de me faire perdre l'esprit l'un après l'autre. » Et se hâtant de retourner dans la salle à manger, il dit à Camilla, « Venez ça, ma chère enfant, voici monsieur qui vient se proposer pour votre mari. Voulez-vous bien lui répondre ?» Quelque sérieuses et tristes que fussent les pensées de Camilla, ce discours la fit sourire, en songeant qu'elle adorateur, l'espiègle Lionel venait d'attacher à ses pas. Elle prit Sir Hugh par la main et, le conduisant à l'endroit de la fenêtre le plus éloigné, elle lui dit à voix basse « Mon cher oncle, ceci me paraît un tour de Lionel. Si je ne me trompe, l'homme que vous voyez est un chaudronnier. » « Un chaudronnier ?» répéta Sir Hugh tout haut, malgré les signes de Camilla. Puis, s'avançant vers M. Dubster, qui prenait pièce à pièce tous les ornements de la cheminée pour les examiner, « Monsieur, lui dit-il, vous pouvez être un bon et très brave homme, et je ne doute pas que vous ne le soyez, car j'ai toujours respecté chacun dans son état. Mais quant au mariage de ma nièce, c'est une chose à laquelle il ne faut pas songer. Une personne de votre état... « Monsieur, j'assure après ma mort à mademoiselle un douaire de 500 livres par an. » Ah ah, 500 livres de rente, je n'aurais pas cru que l'état de chaudronnier fût d'un si grand rapport. Quel état avez-vous dit, monsieur? L'état de chaudronnier, mon bon ami, n'êtes-vous pas chaudronnier? Monsieur, répliqua M. Dubster, je ne le suis pas plus que vous, mettez-vous bien cela dans la tête. Bon, ma chère, s'écria le baronnet à Camilla, ce monsieur dit qu'il n'est pas chaudronnier. Camilla, ne pouvant s'empêcher de rire, avoua qu'elle l'avait entendu dire à Mistress Arbery en déjeunant à Norwich. Sir Hugh demanda pardon de bon cœur à M. Dubster et le pria de prendre un siège à table pour effacer l'impression d'une injure qu'il n'avait pas voulu lui faire. Le baronnet reçut alors une petite note de M. Tyrold qui lui mandait qu'il consentait à retourner à Clèves avec Lavinia, qu'il acceptait aussi le voyage de Southampton, puisque Miss Marland devait être la surveillante de cette petite partie. « De plus, ajoutait-il, je compte sur un autre tuteur à qui j'ai déjà remis ma chère Camilla et à qui je remets mon Eugénia avec la même confiance que si l'une et l'autre étaient sous l'aile maternelle. » Sir Hugh, qui lisait toujours ses lettres tout haut, dit, après l'avoir achevé, « Voyez ce que c'est que d'être un brave garçon. mon frère considère le jeune Edgar comme s'il était déjà le mari de l'une de ses filles, et par ce moyen l'autre devient sa sœur. Et je suis persuadée que c'est une tâche que M. Edgar remplira volontiers. » Ce discours jeta quelques troubles dans le sein de Camilla, mais on ne s'en aperçut point parce que Lindmer entra brusquement, donnant ses ordres très hautement pour le voyage de Southampton. Charmé d'avoir réussi dans le projet récemment formé de vexer son oncle, ce jeune homme, encouragé par le succès, prit la résolution de se rendre maître absolu dans toute la maison ou de regagner le continent. Quand il se mit à table, il prit de force une place entre Sir Hugh et Camilla, s'emparant de tous les plats qui tombaient sous sa main. Et, tout en mangeant, il murmurait contre les chevaux qu'il traitait de rosses et contre le vieux palefrenier qu'il fallait chasser sans rémission. « Quoi, Jacob ? » s'écria le baronnet, « qui me sert depuis son enfance ? Jacob, vieux aujourd'hui comme je le suis, vous voulez que je le renvoie ? Je panserai plutôt les chevaux de ma propre main que de me séparer de lui. » « Mais, monsieur, je vous offre un excellent sujet pour le remplacer. » « Clairement, je ne doute pas que vous n'ayez un excellent sujet à me donner. J'en suis bien aise pour lui, mais je conserverai celui que j'ai si vous le trouvez bon, et je ne veux pas que vous menaciez à tout propos mes gens. Plus de ces propos, je vous prie. Un domestique est un homme tout comme vous, quoi qu'en puisse dire Homère, Horace ou Jansénius. » On n'avait jamais vu ce Ruc fâché. Camilla et Eugénia souffraient pour lui et cherchaient par leurs attentions à le distraire de ses idées. Mais Indiana, ne voyant que le pouvoir de son frère et Clermont qui s'en croyait assuré, n'en devint que plus insolent. Trop inepte pour savoir que de toutes les qualités qui tiennent à la perversité du cœur humain, la plus ordinaire comme aussi la plus facile est l'insolence. Jacob parut. Lindmer lui demanda des chevrettes. On n'en avait pas à lui donner. « Point de chevrettes, on ne peut donc rien avoir. Quel misérable pays que celui-ci !»« Monsieur, lui dit M. Dubster, vous aurez des chevrettes excellentes à Southampton. » »« Je vous prie, mon neveu, combien de temps y demeurerez-vous, afin que mes nièces puissent revenir en même temps que vous ?»« 15 jours, monsieur, c'est assez pour m'ennuyer partout d'où je serai. Et vous, que faites-vous ici après déjeuner? Quel est votre usage, monsieur ?» « Notre usage, mon neveu, nous n'en avons d'ici d'aucune espèce. Cependant, comme nous voici tous, c'est une chose bien incroyable si vous ne trouvez rien à nous dire, à nous qui sommes tous vos parents. »« Oh, monsieur, les parents sont un peu passés de mode. » »« J'en suis fâché, mon neveu, car un parent est un parent. Il n'y a pas une ode dans Virgile qui vous dise le contraire, à ce que je crois. » Cette conversation fut suivie d'un assez long silence, qui fut interrompu par un soupir de Sir Hugh. Je ne peux m'empêcher, dit-il assez haut, de songer à mon pauvre West Wynne. Que dira-t-il quand il reverra son fils avec de pareilles manières? Nul égard pour personne, ne songeant qu'à des huîtres, à des chevrettes, à des papiers nouvelles. Et dans un désert comme celui-ci, à quelle autre chose peut-on penser, mon vieux ami? Mon vieux ami, répéta le baronnet, très certainement, je ne suis pas fort jeune. Cependant, quant à cela, mais je pense qu'en ceci, votre intention n'est pas de m'insulter, et j'aurais tort de vous en vouloir. Sur mon honneur, s'écria Lindmer, les barbons d'aujourd'hui sont passablement insupportables. Les barbons, mon neveu, qu'est-ce que cela veut dire? Mais, monsieur, cela n'a pas besoin d'explication. Mon cher Clermont, s'écria Sir Hugh, combien mon cœur est affligé de voir que vous voulez devenir un fat. Ce peu de mots terrassa l'orgueil de Lindmer. Il se balança sur sa chaise et se tut. M. Dubster avait pris 7 tasses de thé en cherchant à mettre la paix. Il profita de cet instant de calme pour demander à Camilla s'il y avait longtemps qu'elle n'avait vu leur bonne amie Mistress Mitin. « Je vous aurais apporté une lettre d'elle moi-même, ajouta-t-il, si nous n'étions pas en quelque sorte brouillés, car un jour que je la rencontrai, c'était le jour où vous allâtes vous promener au Pentil. Elle était avec quelques personnes de sa connaissance. Ma toilette n'était pas très brillante. Elle fit semblant de ne pas me reconnaître. Cela ne signifie rien, mais c'est trop et beaucoup trop pour moi. Je me rappelle fort bien qu'elle était tout autre avant que je fusse devenue ce que je suis. » Qu'est-ce que vous étiez donc auparavant ? Lui dit Sir Hugh avec une grande simplicité. Quant à cela, monsieur, rien ne presse de dire ce que j'étais ou ce que je n'étais pas. Je n'ai pas du tout à rougir de ce que j'étais. Sir Hugh, le voyant presque fâché, commençait à lui faire ses excuses. Mais l'autre l'interrompit en lui disant « Non, monsieur, non, il est inutile de rien dire là-dessus. Seulement qu'il me soit permis de faire ma cour à cette belle demoiselle qui, très obligeamment, m'a pris pour un chaudronnier. » Le déjeuner achevé, les dames se retirèrent pour se disposer à leur voyage. « Ma foi, dit Dobster en regardant Eugénia, je ne crois pas que cette petite demoiselle fasse une grande figure à Southampton. Je lui conseille de rester ici. » « En effet, cela m'accommoderait fort !» s'écria Lindemer en se levant et développant toutes les beautés de sa taille devant toutes les glaces. « Que Dieu me bénisse !» s'écria Sir Hugh. « Un savant comme vous, pensez tant à la beauté, je serais bien aise de savoir ce que vos livres vous disent là-dessus. »« D'honneur, monsieur, je ne le leur demande jamais. Du moment que nous commençons nos voyages, nous balayons tout ce fatras. » « Et je vous prie, mon neveu, quel tort la science pourrait-elle donc faire à vos voyages ?»« Eh, mais monsieur, avant que de parcourir l'Europe, il faut bien vider sa tête pour la remplir de tableaux, de statues, de bustes, de reliefs, de tablettes, de monuments, de mausolées. »« Si vous continuez à crier si fort, dit Sir Hugh en se bouchant les oreilles, vous ébranlerez toute ma pauvre tête, et Dieu le sait, elle n'est déjà pas trop forte. » Lindemer se retira sans plus de cérémonie. M. Dobster, resté seul avec le baronnet, lui dit qu'il pourrait à présent continuer leur affaire. « Ainsi, dites-moi, je vous prie, monsieur, en cas que nous tombions d'accord sur la jeune lady, que vous proposez-vous de lui donner ?» Sir Hugh, le regardant, lui demanda ce qu'il entendait par là. « Ce que j'entends, monsieur, je désire savoir d'abord ce que vous vous proposez de lui donner dès à présent en me la remettant entre les mains. Je sais qu'à votre décès, elle doit tout avoir, mais de combien pouvez-vous, monsieur, vous dessaisir dès ce moment ?»« Pas même d'une seule guinée, » répondit Sir Hugh assez ému. « Je ne peux rien lui donner, monsieur Edgar le sait. »« Rien pour l'établir, et combien donc après votre décès ?»« Pas un sou !» s'écria Sir Hugh encore plus agité. « Vous ne savez donc pas que je l'ai déshéritée ?»« Déshéritée ? Pourquoi donc ? Qu'avait-elle fait ?»« Rien, elle ne m'a jamais offensé, ni de pensée, ni de parole, ni d'action. J'ai tout arrangé de manière à mettre la totalité sur la tête de sa plus jeune sœur que vous voyez là près d'elle. » Fort bien, Tom Mix avait raison. Le jeune Tyrold, qui me disait le contraire, se trompait, à moins qu'il n'ait voulu me duper. Pardon, monsieur, le mariage est une bonne chose et très bonne quand cela pousse un homme dans le monde. Mais avec rien, sans rien et pour rien, certes, il faudrait être un insensé. Et sur ce, bonjour, mon cher monsieur. » Après ces derniers mots, il sortit promptement de la maison, se félicitant de son heureuse étoile et surtout de sa pénétration. Mistress Burlington arriva dans ce moment et fit prier Camilla de descendre. Quoique tremblante, incertaine des suites de la démarche qu'elle allait faire, Camilla se rendit à son invitation. On devait tous se rassembler à la grande auberge. Le baronnet remit 20 guinées entre les mains de Camilla et l'embrassa tendrement. Surpris, ensuite, de n'avoir pas vu Mandelbert déjeuner, il envoya son intendant lui raconter l'histoire de cette excursion. Lindemer était déjà parti. 2 heures après, la société, composée du docteur Horborn, de Miss Marland, Indiana et Eugénia, suivirent dans une des voitures de l'oncle. À peine sortaient-elles du parc que M. Tyrold et Lavinia vinrent les remplacer.